Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ça parle sport, un podcast de Décathlon Belgique où on a décidé de parler de sport. Alors moi c'est Nicolas, je travaille chez Décathlon et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emeline Nothilleux, championne de Belgique de VTT. Salut Emeline.
Bonjour.
Alors je disais qu'on avait le plaisir de t'accueillir, mais en fait c'est toi qui nous accueille vu qu'on est chez toi. Ça fait du bien de revenir en Belgique entre deux compétitions.
Oui, c'est clair, ça fait du bien, surtout après de nombreux déplacements déjà ce début de saison. Donc quelques jours à la maison, je profite bien. Après malheureusement le temps n'est pas avec moi cette semaine, mais bon, ça fait quand même du bien d'être de retour aux sources.
Oui. Alors, comme je le disais, tu es championne de Belgique de VTT. Tu fais partie du team Rockrider Ford. Tu es aussi membre de la team athlète Décathlon JO 2024. Et tu es 24e au ranking mondial UCI, c'est bien juste?
Oui, c'est exact, oui.
Alors, comme tu le disais, tu es revenu quelques jours chez toi. C'est un peu là où tout a commencé, parce que je pense que tu as commencé le VTT avec tes frères. C'est eux qui t'ont fait découvrir le VTT?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai deux frères plus âgés et en fait, le club Superbiker est né ici à Villers-deux-Églises. Donc, mes frères allaient au club et ça s'est passé naturellement que j'y allais aussi le mercredi après-midi après l'école. Et donc, voilà, j'ai fait toutes mes catégories chez les jeunes comme ça, en évoluant petit à petit sans jamais trop me prendre la tête. Et puis, voilà, s'il faisait mauvais un mercredi à 10 ans et que j'avais pas envie d'aller au club, bah, j'y allais pas. Il y avait vraiment aucune prise de tête, aucune pression et c'était vraiment que pour le plaisir. Et donc, j'ai évolué comme ça. Et puis, à partir d'un moment, il faut quand même commencer à s'entraîner. Tu réalises quand même que si tu veux avoir des bonnes jambes le week-end sur la compétition, bah, il vaut mieux peut-être faire un entraînement en plus la semaine après l'école. Et donc, ça s'est fait quand même assez naturellement. Et puis, ouais, j'ai évolué dans les catégories et voilà où je suis aujourd'hui.
Et aujourd'hui, tu as dépassé tes frères, j'imagine. Ça s'est fait à quel moment, ça?
Oui, alors maintenant, quand on va rouler ensemble, c'est vrai qu'ils ont toujours du mal à accepter. Bon, maintenant, c'est vrai que je m'entraîne tous les jours et eux plus, c'est toujours assez chouette de retourner rouler ensemble le week-end quand c'est possible et quand ils sont là. Et donc, on apprécie toujours aller rouler ensemble.
Et tes parents roulaient aussi en VTT ou pas du tout?
Ouais, en fait, mes parents aussi. Et en fait, c'est vraiment assez familial pour nous le week-end d'aller faire une petite balade, une randonnée tous ensemble. Après, maintenant, mes parents sont en vélo électrique parce que ainsi, bah, c'est plus chouette parce que avant, on savait plus trop aller rouler ensemble parce que moi, je m'ennuyais, eux, ils avaient trop dur et voilà. Et donc maintenant, ils sont tous les deux en électrique et donc on peut aller rouler ensemble le week-end et moi, parfois, même suivre l'électrique, c'est pas évident.
Et si on te parle de VTT, t'as un premier souvenir qui te revient comme ça quand tu étais toute jeune?
Oui, tous les nombreux stages au club Superbikers, comme je le disais l'été, c'était à chaque fois des aventures et avec des bivouacs, etc. Ouais, ça forge un caractère, surtout quand on est une petite fille autour de garçons. C'était pas toujours évident, mais bon, au final, maintenant, j'ai le caractère.
Oui. Du coup, tes parents, quand tu leur as dit « maintenant, je veux faire du VTT à fond, je veux être pro », ils n'étaient pas forcément surpris, quoi, vu que c'est un truc un peu familial. Ils ont réagi comment quand tu leur as dit que...
En fait, je ne leur ai jamais dit « bon, là, je veux devenir professionnel, je veux faire ça à bloc ». Ça s'est fait assez dans la lignée des choses, en fait, parce que voilà, j'ai terminé mes secondaires tout à fait naturellement à 17 ans, parce que ouais, je suis fin d'année, donc j'étais encore jeune. Donc, j'ai commencé directement mes études d'éducation physique et puis j'ai remarqué que j'étais encore sélectionnée en équipe nationale pour les Coupes du Monde junior, etc. Donc, ça prenait quand même beaucoup de temps de lier l'école avec le sport et surtout que j'étais encore beaucoup en déplacement, même en junior. Donc, c'était assez difficile à ce moment-là. Et puis après, quand je suis partie de plus en plus pour le sport et j'avais de moins en moins de temps à consacrer à l'école. Et donc là, il a fallu quand même un moment trancher et savoir ce que je voulais faire au final. Et puis après, je pense que aller vers une carrière de professionnel, c'est une opportunité que tu as une fois dans ta vie. C'est pas à 40 ans que tu vas avoir la chance de faire ça. Et donc, je pense que j'ai fait pour moi le bon choix de dire bon ben maintenant on va mettre de côté les derniers crédits, les derniers les 6 mois qui me restent pour terminer mon baccalauréat en éducation physique et se consacrer à fond pour le sport de haut niveau et ma carrière professionnelle. Et donc je vois quand même que ça paye parce que maintenant quand je vois les résultats que je fais et voilà, j'espère être sélectionnée pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et donc je pense que c'est un bon deal. Et puis après, si j'ai l'occasion, j'aimerais bien quand même terminer les quelques crédits qui me restent avec les stages et le mémoire.
Ouais, donc ça, ce sera pour après ta carrière pro. Ici, en 2023, tu restes sur un début de saison super encourageant. Tu as gagné 5 courses en Grèce, je pense. Tu restes sur une 4e place en Coupe de France à Marseille. C'est le genre de résultat qui met en confiance quand même pour la suite de la saison.
Ouais, c'est clair. En fait, j'ai changé d'entraîneur donc l'année passée après la saison à la coupure, qu'on appelle ça. Donc vraiment la transition entre les deux saisons avant de recommencer l'entraînement. Donc en novembre, j'ai changé d'entraîneur. Et pour moi, c'était la fin d'un cycle avec l'autre et le début de quelque chose. Et je voulais changer et c'était le bon moment de changer parce que changer l'année avant les Jeux, ce n'est pas la bonne idée. Et donc voilà, c'était le bon moment. Ce n'est jamais évident non plus de changer un peu d'entourage, mais... pour moi, c'était le bon moment et donc je suis assez contente de ce choix-là aussi parce qu'au final, on voit que ça porte des fruits. J'ai bien travaillé cet hiver, pas nécessairement... Oui, je suis allée en stage, etc. J'ai fait peut-être un peu plus de volume que les autres années, mais ouais, je me sens déjà super bien et on attend impatiemment les premières Coupes du Monde pour voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que les premières courses que j'ai faites cette année sont très prometteuses avec 5 victoires en Grèce sans trop de difficultés au final. Et la 4e place à la Coupe de France à Marseille, j'étais vraiment contente parce que c'est la première course de l'année où il y a vraiment du gros niveau, où les meilleures mondiales étaient quand même présentes avec la championne olympique 2021, la championne du monde aussi 2021. Donc, je suis devant ces filles-là. Donc, ça veut dire que le niveau, top niveau mondial, il est là. Et donc, je me réjouis d'être sur les Coupes du monde cette année.
Oui, j'imagine. Et tu en as déjà un peu parlé. Des JO, évidemment, c'est pour l'an prochain. Ça, c'est vraiment une consécration, je pense, pour tout athlète. Tu y penses depuis longtemps, ces Jeux olympiques, ou c'est venu vraiment ces dernières années?
En fait, les JO, pour moi, c'est quand même un rêve d'enfance. C'est mon rêve depuis toujours et je pense que c'est le Graal d'atteindre ça dans sa carrière. C'est la plus grosse course la plus grosse compétition du monde. C'est une fois tous les 4 ans, c'est assez unique. J'y pense, en fait, depuis vraiment... le déclic est arrivé en 2021 pour les Jeux de Tokyo, où j'étais réserve, en fait, donc je n'y pensais pas plus que ça avant. Et donc, j'étais réserve, il y avait 1 place et j'étais la 2e, donc voilà. Puis, j'étais juste condamnée à regarder la course sur l'ordinateur. Et puis, au final, la numéro 1 belge qui devait y aller, enfin, qui y est allée, s'est blessée quelques mois avant les Jeux, la dernière Coupe du Monde avant les Jeux. Donc, là, le coach national m'a convoqué. Il m'a dit, bon, ben voilà, elle est blessée. Donc, peut-être que tu vas y aller, en fait. Voilà, j'étais pas du tout prête. Donc, surtout mentalement. Physiquement, je pense que oui, j'aurais très bien pu y aller, surtout pour prendre de l'expérience. Mais mentalement, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis déjà à ce niveau-là. C'est déjà si proche. Et donc, là, j'ai commencé à y penser. Et puis, directement après les Jeux de 2021, je me suis dit, Paris, c'est pour moi. Et c'est dans ma tête tous les jours à l'entraînement, depuis vraiment ce moment-là. Donc je travaille pour ça et je veux y aller, et je veux performer. Et c'est vraiment un rêve que je veux réaliser.
Oui, c'est pas très loin de chez toi en plus. Donc j'imagine que ta famille, tes amis pourraient venir t'encourager. Ça ajoute peut-être une dimension supplémentaire.
Oui, c'est clair. C'est clair que c'est différent des Jeux Olympiques à Paris. C'est presque à la maison, c'est à 3h30 de route, je pense. C'est super différent aussi parce que je suis quand même contente j'espère faire mes premiers Jeux là-bas parce que, ouais, comme tu dis, avoir sa famille, ses proches, ses amis là sur place pour vivre avec toi le plus grand événement de ta vie presque. Enfin, il y en aura d'autres, j'imagine, mais voilà, c'est vraiment une journée. Voilà, assez spécial dans ta vie. Et donc, vivre ça avec les proches, je pense que c'est assez spécial et assez unique. Et donc, je suis très contente que les Jeux, mes premiers Jeux, sera à Paris. Pourquoi pas? Franchement, je trouve ça cool. Et j'espère qu'ils auront tous une place parce qu'apparemment, la billetterie, c'est pas si évident pour avoir une place, mais voilà.
chacun doit avoir son ticket, toi, sur la piste, évidemment, et les autres, il faudrait être devant son ordi au bon moment, à mon avis. Et du coup, pour te qualifier pour Paris, tu dois remplir quelles conditions ?
Il y a un système de ranking olympique. Donc, c'est un ranking olympique de pays. Donc, il faut que le pays soit dans le top 19 des pays du monde pour avoir une place. Et dans le top 8 ou 9, je pense, pour avoir deux places. Donc, nous, ici, chez les femmes pour la Belgique, on vise déjà une place. Et avec les résultats qu'on a faits l'année passée et cette année, surtout avec mon début de saison, j'ai déjà gagné beaucoup de points. Et donc, on est remonté 15e au ranking olympique. Donc, pour moi, pour le moment, la place pour un ticket pour les Jeux chez les femmes pour la Belgique est assez assurée.
Ok. Donc, toi, dans l'état actuel des choses, tu es quasi sûr d'y aller aujourd'hui.
J'espère. Après, il faut toujours être la meilleure Belge, mais normalement, ça devrait le faire.
Et finalement, pourquoi est-ce que tu n'as pas été à ceux de Tokyo ? Tu ne te sentais pas prête ou bien finalement, c'est pour une autre raison ?
Non, en fait, ça a été une décision de l'équipe nationale belge, aussi du comité olympique. Ils ont dû juger sa blessure, à quel état elle était, si elle pouvait être prête pour les Jeux ou pas. Et apparemment, il s'est avéré qu'elle pouvait être prête. Finalement, quand on a vu les résultats de la course, peut-être pas. Mais c'est fait juste comme ça. Ça a été assez interne. Ouais.
Ok. Et du coup, toi, tu gardes quand même un petit goût de trop peu ou tu te dis juste, moi, ma chance, ce sera Paris 2024 et c'est bon comme ça.
Oui, je pense que... Oui, c'est clair, j'ai été fort déçue sur le moment même à regarder la course à la télé en me disant « Ah, j'aurais pu être là et juste prendre de l'expérience » parce qu'au final, je n'avais pas l'ambition de vraiment jouer une performance sur les Jeux de Tokyo. Mais j'aurais pu y participer. En plus, j'étais encore espoir, donc j'étais encore vraiment jeune pour participer aux Jeux olympiques. Mais juste pour prendre de l'expérience, ça aurait pu être chouette. Mais non, je me suis direct focalisée sur les Jeux de Paris du 2024. Et là, je me suis dit, bon, là, je vais les préparer. Là, je serai prête et voilà, je serai à 100% de mes capacités.
Ouais. Et en plus, tu fais partie de la team athlète Décathlon pour les JO de Paris 2024. Tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste ?
Ouais, en fait, je suis dans la team athlète Décathlon. Donc Décathlon est le partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, ils ont sélectionné une grande série d'athlètes de tous les sports, aussi bien paralympiques que normal. On est au total, je pense, une petite trentaine d'athlètes sélectionnés. Et c'est des athlètes qui sont sélectionnés pour représenter les Jeux de Paris 2024 et de Décathlon. Et donc, on s'est déjà rencontrés sur plusieurs séminaires, etc. Et franchement, c'est vraiment génial de rencontrer d'autres sportifs de haut niveau, d'autres sports. On peut vraiment échanger sur leur expérience, etc. Il y en a déjà une bonne partie qui sont déjà allés aux Jeux, qui sont déjà médaillés. Il y a vraiment un sacré niveau dans cette équipe. Et donc, c'est vraiment pour moi très enrichissant de les rencontrer et de pouvoir voir comment ça s'est passé pour eux les Jeux et pour moi déjà apprendre un petit peu qu'est-ce que c'est les Jeux vécus de l'intérieur.
Oui, c'est vrai que ça doit être enrichissant de comparer peut-être d'autres sports, s'inspirer. Toi d'ailleurs, si tu n'avais pas fait de VTT, il y a un autre sport qui aurait pu te plaire, tu penses ?
Oui, je pense. Peut-être pourquoi pas la course à pied ou quelque chose comme ça. De l'athlétisme, parce que j'aime bien courir aussi en dehors du vélo. Après, c'est assez difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai été mise sur un vélo quand j'ai pu marcher. Donc, je pense que j'ai fait ma première compétition à 3 ans et demi. Donc, ma maman m'a arrêtée pour me donner à boire parce que j'étais toute rouge. Donc, voilà. Ouais, j'ai toujours fait ça et j'ai toujours été bercée par le vélo. Et donc, voilà. Mais avec mes études d'éducation physique, j'ai pu faire plein d'autres sports et ouais, c'est assez enrichissant de pouvoir apprendre de nouveaux sports aussi pour la coordination et la condition physique générale.
Ok. Et pour la deuxième année consécutive, tu es dans le team Rockrider Ford. C'est un team où il y a pas mal de filles. Il y a même plus de filles que de garçons, je pense. C'est unique, ça, un peu dans le monde du VTT mondial, on va dire ou...
Oui, je pense, c'est assez unique, oui, parce que maintenant, on se retrouve dans une équipe avec 4 filles et 3 garçons. Donc, oui, il y a des équipes de filles en VTT, donc uniquement de filles. Par exemple, Ghost Factory, c'est une équipe que principalement de filles. Mais une équipe comme nous, avec autant de filles et autant de garçons, c'est assez rare. Franchement, moi, j'y vois que du bonheur parce que on s'entend super bien toutes les filles ensemble. On se tire toutes vers le haut. Donc, on est trois élites et une espoir. Et donc, les trois élites, on est vraiment toutes les trois un peu dans la même vision. On a les mêmes objectifs. Et donc, c'est chouette. On apprend aussi les unes avec les autres. Et donc, c'est vraiment cool. Et ça tire aussi Olivia, l'espoir vers le haut, qui est aussi au top niveau mondial. L'année passée, elle a déjà fait un podium en Coupe du Monde en première année espoir. Donc, elle est vraiment très, très prometteuse. Donc, franchement, ça fait une sacrée équipe. On a vraiment une ambiance super bonne tous ensemble. Et donc, c'est vraiment cool.
Oui, c'est ça, c'est vraiment de la vraie camaraderie, c'est pas que pour les caméras et les appareils photo, c'est vraiment une émulation entre vous, parce que j'ai l'impression que dans le cyclisme sur route, il y a quand même plus de rivalité, enfin, c'est l'image que ça renvoie, en tout cas chez vous, c'est vraiment, on est toutes dans le même team et on roule pour le team et entre nous, il n'y a pas de coup dans le dos, quoi.
Non, c'est clair. Franchement, on s'entend super bien. On a fait nos premières courses ici, à Marseille, on était toutes les quatre dans la même course. Ça s'est super bien passé. Il y a aucune rivalité. Si je devais dépasser un moment l'une ou l'autre, je lui dis « Ah, je suis là, hop là, elle me laisse passer ». Ça, c'est assez bienveillant, on va dire. On s'entend super bien et on ne se met pas de bâton dans les roues. Et franchement, on a fait toutes les reconnaissances ensemble pendant toute la semaine à Marseille avant la compète. Et on a fait tous les tours ensemble pour se donner les traces, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette.
Ok, et en VTT, les filles et les garçons, c'est quand même fort à égalité, parce que depuis quelques années, encore une fois, pour revenir à la route, on parle beaucoup d'essor du cyclisme féminin. Mais en VTT, on parle de VTT, on ne parle pas de VTT féminin. C'est un truc qui est ancré, je pense, depuis les débuts de la discipline. C'est mixte, par exemple, les prize money, etc. Je pense que c'est fort égalitaire.
Oui, on a la chance en VTT, donc déjà depuis quelques années. Je dirais pas 10 ans, hein, mais depuis les 5 dernières années, on avait été légalisé dans les prize money, donc c'est déjà ça. Après, les prize money en VTT ne sont pas les mêmes que sur la route, évidemment. On est assez délaissé pour ça. C'est le même pour les hommes et pour les femmes. Après, le VTT féminin, c'est vrai qu'il n'existe pas. C'est un VTT dans son ensemble parce qu'en fait, pour nous, la compétition des femmes et des hommes, c'est la même. Le circuit est le même. Les femmes n'ont pas un circuit spécifique. Les passages techniques, c'est tout à fait les mêmes. Et qu'ils soient super engagés, les filles passent quand même. Et franchement, on a Stéphane Sompier cette année comme team manager adjoint qui s'occupe de la partie performance du team. Et donc, il s'occupe de faire les reconnaissances avec nous. Et il était surpris la semaine dernière à Marseille. Il dit, mais les filles, vous engagez, vous avez peur de rien, etc. Mais franchement, je pense que les hommes n'ont rien à envier aux femmes à ce point de vue-là. Et donc, on est assez égalitaire pour ça en VTT. Et les hommes ne dénigrent pas du tout les femmes en VTT. Et franchement, on est au même niveau.
Oui, vous avez quand même des contacts avec les hommes de l'équipe, j'imagine. Il y a aussi des échanges entre vous avec Maxime Marotte, notamment, Joshua Dubo. C'est tout le team qui s'entraîne ensemble ou bien vous êtes vraiment les filles d'un côté, les garçons de l'autre
Normalement, donc, par exemple, en Coupe du Monde, on a des horaires spécifiques pour les femmes et pour les hommes sur le parcours. Donc, les femmes sont séparées, les entraînements des femmes sont séparés des entraînements des hommes, juste pour le principe que personne ne se gêne et parce que les hommes vont beaucoup plus vite sur le parcours. Et donc, pour eux, ça peut être embêtant s'il y a des filles en même temps, ils ne peuvent pas aller à leur rythme, etc., à leur vitesse. Mais par exemple, ici en Coupe de France, il n'y avait pas de créneau spécifique pour les femmes ou pour les hommes. Et donc, tout le monde roulait ensemble. Et donc, les Joshua, etc., sont venus faire les tours de reconnaissance avec nous, à notre rythme, évidemment. Il s'est adapté, mais c'était chouette aussi de voir. Parce que les hommes, parfois, ont d'autres races que les femmes, un peu plus engagées. Et donc, c'est aussi chouette de faire une combinaison, de voir les autres possibilités des autres coureurs. Et donc, on a roulé tous ensemble la semaine dernière.
Ok. Et le VTT, c'est un sport qui est de plus en plus technique au niveau de la mécanique du vélo, notamment. Dans le team Rockrider, vous avez aussi un rôle pour faire évoluer le vélo. Ça se passe comment? Vous donnez des retours à la marque et puis ils les prennent en compte pour les évolutions futures du vélo?
Oui, en fait, donc là, Rogue Rider a sorti le nouveau 940S. Donc, c'est le tout nouveau vélo de cette année de cross-country de Rogue Rider. Et donc, il a été en fait créé en même pas un an, ce vélo. Et en fait, il a été créé avec principalement Stéphane Tampier qui donnait ses retours. Et donc, ils ont contacté Stéphane pour faire le cahier des charges du vélo et on lui demandait ce qu'il préférait, voilà. Donc, pour aider à la construction du vélo. Et puis après, on a eu le cadre en prototype, qu'on a dû tester, qu'on a dû faire des retours. Et puis sur ça, ils ont fait évoluer le vélo. Et donc, on a été vraiment en partenaire de la conception de ce vélo. Et maintenant, on roule avec. Et voilà, on a fait pour le moment notre début de saison avec. Et franchement, il est vraiment génial. Et c'est vraiment un vélo qui a énormément de potentiel. Il est très, très rigide, très léger, très réactif. Voilà, franchement, je suis vraiment épatée de ce vélo et on voit une énorme évolution avec ce vélo comparé à celui de l'année dernière.
Et toi, la mécanique, c'est quelque chose qui te parle? C'est toi qui travailles sur ton vélo quand tu es en Belgique, par exemple? Ou bien c'est plutôt papa qui est derrière, qui est aussi dans le VTT?
La mécanique, pour être honnête, c'est pas tellement mon truc. Après, je fais très bien les trucs de base. Hein. Donc, quand je reviens, que mon vélo est dans une valise vélo parce qu'il a voyagé en avion, bah, je sais le remonter, etc. Mais ouais, c'est pas si je change les pneus pour aller à l'entraînement, etc. Les trucs de base, franchement, ça va, je me débrouille pas mal. Mais la mécanique vraiment fine, c'est pas trop mon truc. Je préfère laisser ça au mécano où j'ai peur de faire une bêtise et de faire pire que mieux. Donc voilà, ouais, je laisse ça aux personnes, c'est leur job. Moi, mon job, c'est rouler et pédaler. Et voilà, eux, le job, c'est que le vélo, il marche. Et donc voilà, chacun son job.
Et tu pédales avec le maillot de championne de Belgique, le maillot de championne de Belgique dans le milieu du vélo, c'est quelque chose quand même, c'est une fierté au quotidien de le porter, ce maillot.
Ouais, donc je suis le maillot de championne de Belgique maintenant déjà depuis 2 ans. Donc ouais, c'est quand même assez une fierté de l'avoir. Et en final, un maillot de champion national, c'est quand même important. Tu représentes ton pays sur toutes les épreuves internationales et tout le monde voit d'où tu viens au final, parce que je trouve que c'est vraiment important. Je suis assez fière de l'avoir. Et aussi, quand je suis en équipe nationale, porter le maillot national, c'est aussi quelque chose. Je trouve que c'est un privilège vraiment de l'avoir. Donc, moi, je suis assez fière de mon maillot.
Ok, ouais, j'imagine. C'est quand même un des plus beaux du peloton. Est-ce que, en tant que sportive pro, tu as déjà eu des moments de doute? Je pense que tu as connu des chutes un peu importantes. Comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une période un peu d'entre-deux où on se demande un peu ce qu'on fait, ou bien de suite on veut remonter sur son vélo et repartir à l'abordage, on va dire?
Oui, des chutes, j'en ai déjà eu énormément. Après, vraiment des. Être hors du parcours pendant longtemps, j'ai jamais vraiment connu ça. Ma dernière grosse blessure, on va dire, c'était l'année passée où je me suis déboîté l'épaule au mois de mai, donc juste après la première Coupe du Monde. Donc il me restait, je pense, 2 semaines, 15 jours avant la Coupe du Monde suivante pour me retaper. Donc ça n'a pas été évident, mais j'ai la chance aussi d'avoir un copain qui est kiné, donc qui m'a bien aidé, qui m'a bien aidé et qui m'a soigné au quotidien. Et voilà, on a vraiment travaillé tous les deux à fond pour essayer de me retaper le plus rapidement possible. J'ai eu aussi la chance, cette période-là, d'aller m'entraîner sur les Watt Bike, donc les home trainers à la salle Kinésport à Couvain. Donc voilà, on a mis en fait des choses en place pour pouvoir continuer à s'entraîner, mais différemment, pour ne pas perdre en condition et pour pouvoir continuer, on va dire, le travail. Et donc, je pense que si le mental y est et si tu mets en place les choses correctement, je pense qu'il y a vraiment moyen de passer au-dessus. Si tu es patient, etc., et que tu laisses le temps nécessaire pour guérir, je pense qu'au final, ça va et tu peux revenir au meilleur niveau juste après ta blessure.
Ouais. Et la vie de sportif de haut niveau, c'est quand même pas mal de sacrifices pour toi, mais aussi pour ta famille. Tu parlais de ton copain, c'est des choses qu'il accepte, ça, les voyages, il accepte facilement tout ça.
C'est vrai que c'est une vie assez, assez contraignante au final, parce que bah voilà, là on est vendredi soir, oui, il y a des amis qui veulent aller boire un verre. qui veulent aller manger un bout quelque part et on est invité à une fête. En fait, quand je suis à la maison, il y a toujours bien quelqu'un qui veut me voir et qui veut faire quelque chose parce que je suis pas beaucoup là. Mais ouais, c'est assez dur aussi mentalement, mais ouais, c'est assez contraignant. Et donc voilà, moi je dois rester assez focus à ce niveau-là. Et voilà, je dois rester à la maison, faire attention à ce que je mange, à avoir énormément de sommeil au final pour bien récupérer. Donc voilà, demain je suis en stage, donc voilà, ce soir je vais aller dormir tôt et être prête pour mon stage en équipe nationale ce week-end. Donc voilà, ouais, c'est assez contraignant pour toute la famille aussi, parce que bah, ils me voient pas beaucoup, surtout par exemple cet été où on enchaîne des coupes du monde, championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Donc ouais, c'est assez dur aussi pour eux. Parfois je suis pas là, c'est pour les gros événements familiaux, il faut toujours trouver une date. Bon, on demande déjà d'abord à Emeline quand elle est là, et puis après on essaye de trouver une date pour le reste de la famille. Donc ouais, c'est jamais évident, mais voilà, tout le monde s'adapte et voilà, au final tout le monde est heureux quand il y a un bon résultat qui suit. Et donc voilà.
Oui, tu sais pourquoi tu le fais aussi.
Exactement.
Et quand tu peux te permettre un petit écart, c'est vers quoi que tu vas au niveau nourriture par exemple?
Oh, bah, je suis pas vraiment. Après, je ne me prive pas énormément. Je mange un peu de tout quand même. Mais ouais, une bonne pizza ou un truc comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et que après une course, une pizza, ça c'est la base.
Et tu as le temps pour d'autres passions en dehors du vélo, ou bien ça te prend vraiment toutes tes journées?
Ben, maintenant, je veux dire, quand je suis focus à 100% sur mes entraînements, je vais aussi en préparation physique à la salle, 2-3 fois semaine en plus des entraînements sur le vélo, donc ça prend déjà beaucoup de temps au final. Puis après à la maison, ouais, j'ai le reste du temps, je dois travailler un petit peu aussi pour la comptabilité, etc. Et puis j'aime bien donner un petit coup de main à ma maman pour la maison, pour les tâches, etc. Donc ouais, j'ai souvent mon planning qui est assez full.
Ok. Et si tu devais donner des conseils à une jeune vététiste qui voudrait peut-être marcher dans tes pas, ce serait lesquels?
Ah ben, continuer à s'amuser sur le vélo, je pense que c'est primordial, c'est le plus important. Et puis quand tu t'amuses et que tu aimes bien faire ce que tu fais, au final, bah, tu seras motivé pour aller t'entraîner. Et puis quand tu auras les bons résultats qui vont suivre, tu dis « Ah, mais c'est pour ça que je le fais au final, c'est pour vivre ces émotions-là ». Et franchement, aller s'aligner sur une Coupe du Monde, etc., tu vis quelque chose vraiment sur le vélo. Et même à tout niveau, j'ai envie de dire, je pense que aller faire un tour en vélo avec ses copains, ses copines, etc., franchement, c'est lié l'utile à l'agréable, avec une petite session sportive aussi conviviale. Donc, ouais, enfin, juste s'amuser et le reste suivra.
Ok, merci beaucoup. C'est ici qu'on va conclure. Merci beaucoup, Emeline. J'espère qu'on se croisera à Paris. Pour moi, ce sera assez facile. Il faudra juste que je trouve un ticket quelque part. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à bientôt pour un prochain épisode de Ça parle sport.